Le défouloir de Alain Alain, l'homme de Boulevaka.
Et tout de suite, les infos. Des infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Attaque tôt ce matin du poste de sécurité de la mine d'or de Namiseguima. Les travailleurs ont tous été conduits à Waiguya. Pas de bilan pour l'instant. Lutte contre le terrorisme. La coordination nationale pour une transition réussie de Pascal Zaïda pense que les forces de défense et de sécurité gagnent du terrain face aux terroristes. Et puis mine de Perkoa en 7e corps a été retrouvée selon le gouvernement. Notre invité du jour est Moussa Camara, journaliste malien au journal L'Indépendant. Avec lui sera question des 24 mois annoncés par les autorités maliennes comme durée de la transition. Et voici pour les titres. Bonjour et bienvenue. Des individus armés ont ouvert le feu dans la nuit d'hier à ce matin sur le poste de sécurité de la mine d'or de Namiseguima, précédemment exploité par la société Andaivo Mining. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'est disponible, mais des sources locales à Waiguya ont confié à Omega Media que des armes pourraient avoir été emportées par les assaillants. Les travailleurs de cette mine, désormais exploitée par Neri Mining, ont tous été conduits à Waiguya pour des raisons de sécurité. La mine a été momentanément fermée. La mine de Namiseguima est située à une vingtaine de kilomètres de Waiguya. Et même si, malgré la prise du pouvoir par les militaires, les attaques se poursuivent, la Coordination nationale pour une transition réussie trouve que la situation sécuritaire évolue positivement. Cette coordination était face à la presse hier. Le compte-rendu de Valérie Traoré avec la voix de Yaya Diomandé.
Les forces de défense et de sécurité prennent le pas sur le terrorisme, foi de la Coordination nationale pour une transition réussie, CNTR, qui s'appuie sur les dernières évolutions sur le théâtre des opérations. Mais pour un meilleur traitement de la question sécuritaire, le CNTR prône l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Pascal Zaïda est le coordinateur du CNTR.
Le Burkina Faso est en situation de guerre. Et à ce titre, nous avons donc demandé à ce qu'on décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, afin que la mission première qui a amené les militaires au pouvoir, qu'au soir du bilan, le peuple burkinabé puisse donc apprécier de façon positive et objective.
En plus du terrorisme, le Burkina est confronté à plusieurs fractures qui ébranlent l'unité nationale. Le CNTR propose alors un dialogue inclusif et une trêve politique. Pascal Zaïda.
On en a suffisamment besoin et je pense que personne ne peut nous dire pourquoi on demande aux partis politiques de restreindre leur activisme et contrairement, on demande donc à une large concertation. Pour le moment, nous pouvons dire sans nous tromper que les gens doivent bannir tout calcul politique. Parce qu'on va aller vers la refondation de la CENI et c'est à partir de là maintenant, la dynamique pour les élections sera déclenchée.
Composée de 7 organisations de la société civile, la Coordination nationale pour une transition réussie s'engage à accompagner le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR dans ses missions de gouvernance et de pacification du territoire national.
Et nous parlons à présent des inondations survenues sur le site minier de Perkoa. Un autre corps a été retrouvé. Cette découverte porte à 7 le nombre total des corps retrouvés. L'information a été donnée hier en Conseil des ministres. Autre information, la plateforme e-Visa sera bientôt disponible pour les voyageurs qui en demandent. Chalda pour plus de précisions.
Le drame survenu dans la mine de Perkoa depuis le 16 avril dernier est au centre des préoccupations du gouvernement qui précise qu'un corps a été retrouvé ce mercredi matin, portant à 7 le nombre total des corps retrouvés. Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement.
Pourquoi ce matin un autre corps a été retrouvé, portant donc à 7 corps retrouvés aujourd'hui. Les recherches se poursuivent pour retrouver donc le 8e corps manquant à l'appel jusqu'aujourd'hui. Il faut noter également qu'à la demande du gouvernement burkinabé et aussi avec les efforts de la mine de Perkwa, les familles donc des deux personnes étrangères, une partie des familles des deux personnes étrangères sont arrivées sur le sol burkinabé. Il s'agit donc du père donc du Tanzanien qui a rejoint Koudougou et qui a pu se rendre à Réo et à Perkwa et à le soutien donc du gouvernement.
La plateforme e-visa désormais disponible pour les étrangers qui aimeraient avoir des visas, a expliqué Lionel Bilgo.
Il s'agit donc d'un décret portant autorisation de perception de recettes à titre de prestation liées à la délivrance des visas d'entrée et de permis de séjour du Burkina Faso et de la publicité sur la plateforme e-visa Burkina. Donc le e-visa Burkina est une plateforme électronique qui permet la délivrance du visa autorisant l'entrée au Burkina Faso pour tout étranger qui en fait la demande en ligne.
Le Burkina Faso et la Banque africaine de développement BAD sont en phase de signer un accord de prêt de plus d'un milliard de francs CFA pour lutter contre le changement climatique dans le bassin du Niger.
Et puis comme à chaque conseil des ministres depuis un certain temps, des nominations, il y en a eu. Ainsi, si Dabiri, contrôleur général de police, a été nommé directeur général de l'Office national d'identification ONIM, il était l'ex-DG de l'École nationale de la police. Bokari Bagna, officier colonel, prend pour sa part les rênes de la direction des opérations de maintien de la paix. Autre décision, le directeur général du laboratoire national du bâtiment et des travaux publics, Alpha Kafando, a été démis de ses fonctions avec effet immédiat. Même sort pour le chef d'antenne régionale du centre du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, Abdulaziz Ouidraogo, le secrétaire permanent du programme sectoriel des transports, Daouda Diabaté, a lui aussi subi le même sort, démis donc de ses fonctions avec effet immédiat. Elle fait de son cheval de bataille la préservation et la valorisation des monuments humains ou institutionnels. Il s'agit d'un mouvement associatif dénommé la CASE des Inoubliables. Les membres de cette structure étaient face à la presse mardi dernier pour faire connaître cette nouvelle structure. Momoni Yaro.
La CASE des Inoubliables a pour champ de bataille milité pour que les actes et les œuvres des monuments humains ou intellectuels ne soient pas dans les oubliettes. Elle fait du patrimoine culturel un référentiel pour la future génération. C'est à travers des collectes, la numérisation et la promotion des cultures et des œuvres des personnes physiques ou morales qui ont retenu une attention particulière au Burkina. Emmanuel Sanou, président du mouvement.
Il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie pour le développement du Burkina Faso et qui sont dans l'anonymat. Nous avons cité l'exemple de l'abbé Robert Ouédraogo qui n'est plus de ce monde. Pour avoir les informations sur l'abbé Robert Ouédraogo, il a fallu qu'on aille à la cathédrale. Et notre objectif, c'est d'épargner la génération qui va venir de ce parcours de recherche. Mais pour le moment, nous allons travailler avec les gens qui vivent pour le départ et que nous cherchons à récompenser, à leur dire merci d'avoir contribué au développement du Burkina Faso.
Des activités sont annoncées par le mouvement, notamment sa première édition d'hommage populaire le 24 octobre à venir.
Nous voulons le 1er novembre les appeler et leur dire merci. On ne veut pas attendre que quelqu'un soit sur la tombe pour lui décerner une médaille. Pendant la semaine, nous allons faire du cyclisme, du pétanque, des crosses populaires, des tournois maracana, des concerts populaires.
Le mouvement associatif La Case des Inoubliables a été créé cette année 2022. Son récépissé de reconnaissance a été présenté au cours de la conférence.
Le conseil burkinabé de l'ANACAD donne un coup de pouce aux producteurs d'ANACAD afin d'améliorer leur rendement. La fêtière de la filière ANACAD a procédé lundi dernier à la remise de plus de 22 000 plants plutôt d'ANACAD aux producteurs de la noix de cajou à Bobo-Dioulasso, Olivia Yen.
La stratégie nationale de développement de la filière anacarde ambitionne accroître la production nationale à 200 000 tonnes d'ici à 2024. C'est en droite ligne avec cette stratégie que le Conseil burkinabé de l'anacarde offre 22 900 plans améliorés d'anacarde aux producteurs. Joseph Azerbo, directeur général du Conseil burkinabé de l'anacarde.
Nous avons entrepris des actions spécifiques, notamment comment augmenter les rendements des vergers existants à travers un certain nombre de formations sur les bonnes pratiques agricoles, mais aussi des actions pour pouvoir aussi accroître les nouveaux champs à travers la remise des plans améliorés. Au-delà des plans, il y a aussi le suivi, aussi la répartition entre les acteurs même.
La joie est grande chez les producteurs d'anacarde qui n'en espéraient pas moins venant de leur fêtière. Toutes les dispositions sont prises pour que ce don arrive aux bénéficiaires. Abdoulaye Traoré, président national des producteurs d'anacarde.
Je suis très fier aujourd'hui d'avoir déjà une solution pour le problème de nos producteurs qui souffre depuis des années de la question du rendement. Nous avons toujours cherché à avoir des plans à haut rendement. Aujourd'hui, la solution commence d'être vue sur le terrain. L'Union nationale est composée de 4 zones de production. À travers les unions régionales, nous allons faire la répartition et au sein des régions, le dispatching va se faire pour atteindre chaque producteur.
Comparativement aux autres pays producteurs d'anacarde de la sous-région, le Burkina Faso a un faible rendement. Ces plans améliorés d'anacarde ont donc de quoi susciter des espoirs dans l'interprofession de l'anacarde. Ibrahim Sanfo en est le président.
Le Burkina a un rendement moyen de 300 à 500, mais avec ces plans améliorés qui peuvent aller de 700 à 900, c'est un ouf de soulagement.
Outre cette remise de plans améliorés d'anacarde aux producteurs, le Conseil burkinabé de l'anacarde a déjà mené plusieurs actions visant à accroître la production nationale d'anacarde. Entre autres, la remise de tronçonneuses, de pulvérisateurs motorisés, de fumures organiques et enfin de sacs en jute. Olivia Yen, Bobo Dulasso, Radio Omega.
Omega Sport.
Et nous retrouvons Benabé Cabri pour les nouvelles des éliminatoires de la CAN.
Denis, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Omega. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se sont poursuivis donc ce mercredi avec plusieurs oppositions. On le sait tous, l'équipe du Bénin s'était inclinée à 3 buts à 1 sur le terrain du champion d'Afrique en titre, le Sénégal. Le Bénin comptait se relancer hier avec la réception du Mozambique. Malheureusement, les écureuils ont été battus chez eux, 1 but à 0. Une grosse désillusion pour le Bénin qui s'éloigne un peu plus de la CAN en République de Côte d'Ivoire. Le match entre l'Ouganda et le Niger s'est soldé sur un score de parité à 1 but partout. Le Niger était mené mais a obtenu l'égalisation à 7 minutes de la fin. Le Congo qui avait été chicoté 4 à 0 par le Mali s'est racheté à domicile en dominant donc la Gambie 1 but à 0. Le match entre le Gabon et la Mauritanie s'est soldé sur un score de parité à 0 à 0. L'Algérie a rassuré une fois de plus en s'imposant 2 buts à 0 sur la pelouse de la Tanzanie et le Soudan a défait la République démocratique du Congo 2 buts à 1. C'est la deuxième défaite pour cette équipe congolaise qui avait perdu lors de la première journée à domicile 0-1 face au Gabon. Et les matchs vont se poursuivre aujourd'hui à partir de 13h dans quelques instants. Donc le Soudan du Sud va recevoir l'équipe du Mali. Le match entre le Zimbabwe et le Libéria a été annulé. Le Zimbabwe a été exclu des éliminatoires par la CAF parce qu'il doit beaucoup d'argent à son ex-sélectionneur. On aura aussi à 16h le match entre l'Éthiopie et l'Égypte, sans oublier le face-à-face entre la Guinée et le Malawi. Il y aura aussi l'opposition Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe, Nigeria, Sierra Leone. Le voisin, la Côte d'Ivoire, jouera à 17h sur la pelouse du Lesotho. Et le dernier match va se jouer à 19h entre le Maroc et l'Afrique du Sud.
Merci à vous, Benabé Cabré.
La revue de presse.
Dans la revue de presse de ce jour, les problèmes qui gangrènent le secteur de l'orpaillage, autre problématique soulevée par les éditorialistes, la crise qui secoue l'organe de régulation des médias au Burkina et les tensions en poste électoral au Sénégal, la lecture croisée des parutions de ce jeudi avec Brigitte Yoda.
À la une des principaux quotidiens du jour, l'inondation de la mine de Percois. Un autre corps retrouvé affiche le quotidien. Un septième corps retrouvé poursuit l'Obs. Et pendant que les recherches se poursuivent pour retrouver le huitième et dernier corps, le quotidien fait cas des problèmes qui minent ces dernières années le secteur minier en général et celui de l'orpaillage en particulier. En sus des attaques terroristes, le secteur de l'orpaillage est confronté à un manque d'organisation et d'encadrement. Aux questions d'organisation et d'encadrement, il faut additionner les conditions même de travail sur les sites miniers artisanaux qui sont plus qu'exécrables avec prolifération des drogues, mais surtout l'utilisation de certains produits très dangereux, commente notre confrère, appelant comme le Ghana premier producteur d'or en Afrique l'a fait, à bannir les produits tels que le cyanure et le mercure sur les sites pour continuer la production d'or sans nuire à l'environnement et à la population. Pour servir d'exemple, le quotidien indique que le président ghanéen a mis en service une centaine de machines capables de récupérer plus de 90% du minerai d'or sans utiliser du mercure. Après la crise du secteur minier, la crise au CSC. Faut-il des conseillers pour conseiller le Conseil supérieur de la communication? S'interroge l'Express du Faso. Pour notre confrère, c'est bien triste que ceux qui sont chargés de conseiller et de réguler les médias et qui par conséquent doivent donner l'exemple dressent une scène de division après avoir élu un président par 5 voix contre 4. Les anciens conseillers, tout comme les nouveaux venus, doivent tout de suite taire leurs divergences car la mission à eux confiée va au-delà de leur personne prise individuellement. C'est ce que conseille le quotidien. Attention au réveil des vieux démons, s'exclame le pays à propos des tensions préélectorales au Sénégal. Pour le journal des 1200 logements, à quelques 7 semaines des législatives du 31 juillet prochain, la mise à l'écart de la compétition électorale de figures emblématiques de l'opposition, dont Ousmane Sonko, candidat malheureux à la présidentielle de 2019, arrivé troisième et déjà déclaré à la succession de Macky Sall en 2024, risque de pourrir l'atmosphère sociopolitique au Sénégal, déjà chargée de soufre. L'atmosphère préélectorale se grippe au Sénégal avec cette marche de Yewi Askenwi contre le Conseil constitutionnel et un troisième mandat de Macky Sall, titre aujourd'hui au Faso qui craint un remake des événements malheureux de mai 2021 au cours desquels des manifs suivis de casses et de violences ont émaillé Dakar suite à un digel qui signifie consigne en langue Wolof lancé par le PASTEF d'Ousmane Sonko. Appelant pour sa part à assainir le jeu politique, le pays estime que les soupçons de l'opposition qui accuse le pouvoir d'instrumentaliser certaines institutions de la République à son profit ne seront levés tant que le chef de l'État, Macky Sall, continuera d'entretenir le flou sur les intentions de troisième mandat que lui prête l'opposition.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Le président de la transition malienne a pris un décret pour fixer le délai de la transition à 24 mois avant de remettre le pouvoir à un civil, une décision qui a surpris à plus d'un, car la CEDEAO exigeait que cette transition ne dépasse pas 16 mois. Pour en parler, nous recevons comme invité Moussa Camara, il est journaliste au journal L'Indépendant, un quotidien de référence à Bamako, la capitale malienne. Joint au téléphone par Brigitte Yoda, il affirme que l'annonce de Bamako est une forme de couteau à double tranchant. Écoutez plutôt.
Moussa Sayon Camara, bonjour.
Bonjour.
Le président de la transition, Assimi Goïta, a par décret fixé à 2 ans le délai de la transition. Comment cette décision est accueillie au sein de la société civile malienne?
La décision a été accueillie à Bamako, que ce soit du niveau de la société civile ou de la classe politique, par une sorte de surprise. En fait, les gens ne s'attendaient pas trop à cette annonce. Disait que le Mali allait sans doute poursuivre les négociations avec la CEDEAO, du moins jusqu'au 3 juillet.
Les militaires se donnent jusqu'à mars 2024 avant de rendre le pouvoir aux civils, alors qu'ils sont au pouvoir depuis août 2020. Comment la classe politique malienne réagit justement à cette annonce?
Avant de répondre à votre question, j'aimerais juste faire une petite précision. Les uns et les autres ont tout le temps l'habitude de dire les militaires au pouvoir, la junte au pouvoir. En réalité, au Mali, il y a une sorte de partage de pouvoir entre les militaires et les civils. Même si les militaires occupent la présidence, il y a le mouvement M5 qui est maintenant la primature. Donc il y a une sorte de partage de pouvoir. La classe politique, à travers plusieurs acteurs politiques, dénonce leur exclusion dans le processus de fixation du délai à 24 mois. C'est-à-dire, pas mal de partis politiques ici à Bamako expriment le fait qu'ils n'ont pas été associés au processus ni par la CEDEAO ni par le gouvernement malien. Donc, ce qui crée une sorte de malaise.
Alors, cette annonce sur la durée de la transition fixée à 2 ans survient après le sommet de la CEDEAO et alors que des sanctions pèsent toujours sur le Mali. Est-ce que vous avez espoir que les chefs d'État de la CEDEAO acceptent finalement les 2 ans proposés par le président Assimi Goïta?
Je considère que cette annonce est une forme de couteau à double tranchant parce que la CEDEAO, vous rappelez, n'a pas levé encore ses sanctions. La CEDEAO n'a toujours pas eu un accord officiel avec les autorités maliennes autour d'une durée. Mais nous nous rappelons que le ministre des Affaires étrangères, à l'issue du sommet, a fait un point dans lequel il a tout simplement fait savoir que la majeure partie des chefs d'État de la CEDEAO sont d'accord avec le principe d'une durée de 24 mois. C'est là où je dis que ça va certainement être un couteau à double tranchant, parce que les chefs d'État qui ne sont pas d'accord pourront voir derrière cette annonce une sorte de mépris et ça risque de les réconforter dans leur position.
Parlons justement de la CEDEAO. Comment les Maliens vivent ces sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest?
Ici, à Bamako, nous observons une sorte d'impatience des Maliens pour la levée des sanctions. Il y avait un espoir inouï des Maliens pour la levée des sanctions lors du dernier sommet tenu à Accra. Mais les Maliens ont été pour la plupart déçus du fait que l'embargo a été maintenu et que ça continue toujours à avoir des effets sur le panier de la ménagère. Donc les voix s'élèvent de plus en plus pour demander ou souvent implorer la CEDEAO à lever les sanctions. Les deux obstacles majeurs sont à l'heure actuelle, entre autres, la publication d'un chronogramme détaillé des actions qui doivent être menées pendant les 24 mois et la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi de la mise en œuvre des actions qui seront contenues dans le même chronogramme. Ce sont là les deux éléments complémentaires qui ont été, selon le ministre des Affaires étrangères, demandés par les chefs d'État pour aller vers une levée des sanctions.
Et sur le plan sécuritaire, y a-t-il une montée en puissance de l'armée depuis que Assimi Goïta est au pouvoir, depuis que le Mali a demandé le départ de la France et de la force Takuba?
Ça, c'est un constat général. Tous les jours, presque, nous voyons des communiqués du chef d'état-major de l'armée qui fait le point des opérations. Il y a pas mal de leaders ou de chefs terroristes ou djihadistes déjà neutralisés. Il y a beaucoup de localités qui ont été libérées. Il y a aussi des localités qui restent toujours sous occupation djihadiste. L'armée quand même affiche une volonté claire et déterminée à aller chercher les terroristes dans leur dernier retranchement. Donc l'espoir est aussi permis à ce niveau pour tout simplement aller à une sorte de reconquête des espaces antérieurement occupés par les terroristes et les djihadistes.
C'était l'invité de la rédaction.
À l'instant, notre invité Moussa Camara, journaliste malien,
Vous l'aurez compris, c'est ici que sur FM, cette édition mise en onde par Adama Konaté, Ibrahim Niaouni, à la retransmission web, Denis Ezungrana, à la présentation. Je vous laisse avec ce proverbe pour méditation. C'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir, à méditer donc. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.
Omega Media, ce sont nos stations radio de Ouaga et Bobo-Dioulasso. Notre compte Facebook...